Je vais lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Que tout le monde se lève pour la lecture de la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 1. Et je lis du version en sommeur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Verset 5. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Verset 32, acte 2, à partir de verset 32, c'est Pierre qui commence à prêcher. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint. Il a répondu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devenons-nous faire ?» Verset 38. Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Prions avec moi. Répète après moi. Cher Jésus, parle à mon cœur. Change ma vie. Amen. Tu peux t'asseoir. Je vais lire acte 2, verset 38 encore. Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pour ces Juifs qui ont entendu le parler en langue et qui se sont rendus compte afin que ce Jésus crucifié, ressuscité et monté aux cieux, que ce Jésus est Dieu, que ce Jésus est Seigneur, que ce Jésus est Sauveur pour eux. C'est le commencement. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Ils sont au carrefour, au point de la décision la plus grande et la plus importante qu'on peut faire dans sa vie sur cette terre. Une pointe d'interrogation se lève devant eux. Et la question est celle-ci. Est-ce que tu choisis Jésus comme Sauveur et Seigneur? Ou est-ce que tu vas le rejeter? Quand on choisit Jésus, le Seigneur et le Sauveur, on devient un enfant de Dieu. qu'on le rejette, on reste esclave du péché, esclave du diable. Alors, quand on se tourne vers Jésus, la vie est complètement changée. La personne qui se tourne vers Jésus est transformée. Et c'est complètement naturel de demander, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que je vis cette nouvelle vie? Comment est-ce que ça marche? Quand tu achètes un nouvel appareil électroménager, c'est tout à fait naturel de commencer à lire le livret qui vient avec pour savoir comment cela fonctionne, oui? Ou au moins, commencer à appuyer sur les boutons pour voir qu'est-ce qui se passe si j'appuie celui-ci. Il y a certains qui veulent toujours lire le petit livret. C'est moi. Les autres qui... Je n'ai pas le livret. Je veux pousser les boutons pour trouver comment ça marche. C'est pour faire. Mais ça serait bizarre d'aller chez Darty, d'acheter un appareil, payer le prix, et en plus payer pour la livraison, ou bien d'essayer de mettre le truc énorme et cartonné dans la voiture. Et ça qui est un autre projet qui fait rire, mais seulement quelques semaines plus tard. Mais quand on arrive à voir la machine enfin dans la maison, on ne laisse pas toujours cartonner dans un coin, non? On enlève le carton, on branche et on voit ce que cette machine peut faire. Et si on achetait une machine à laver, une lave-vaisselle, pour changer la vie juste un petit peu, combien encore plus la vie nouvelle en Christ nous transformera chaque facette, chaque aspect de la vie humaine. La Bible commence avec le commencement de la terre et des cieux. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1, il dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et Jean nous donne plus de renseignements du commencement. En Jean, chapitre 1, verset 1, il dit, « Au commencement, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. » Au commencement, il y avait un changement. S'il n'y avait pas de changement, ça ne serait pas un commencement. C'est ça qui signifie un commencement, un changement. Si tu t'es tourné vers Jésus, si tu t'es donné à Dieu pour être son enfant, si tu t'es rendu au Seigneur pour être à lui, c'était un commencement. Si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur et ton maître, tu peux dire, à mon commencement, Dieu créa une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, c'est moi. Donc changez. Repentez-vous. Puisque tu as eu un commencement d'une nouvelle vie, il y avait aussi un changement de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Tu t'es repenti. Tu as choisi de changer. Se repentir et changer, ça veut dire la même chose. Il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas le mot « changer » pour repentir. Mais en fait, pour nous au XXIe siècle, c'est plus clair. Si tu n'as pas changé, tu n'as pas repenti. Se repentir ne veut pas dire admettre que j'avais tort ou que j'ai péché. Ça fait partie de se repentir, mais ce n'est que le début. Quand tu te repentis, ça veut dire que tu t'es repenti. Tu as choisi une nouvelle pente, un nouveau chemin. Tu as changé de chemin et tu ne vas plus dans le mauvais sens. Quelquefois, c'est facile. On se rend compte que ce que je fais n'est pas bon et ça ne plaît pas à Dieu. Et tout d'un coup, ce que je faisais avant, maintenant, j'ai horreur de faire ça. Et j'ai honte quand je me souviens que j'ai fait ça avant. Quelquefois, la repentance se fait tout d'un coup par une transformation dans une demi-seconde et c'est fini. Peut-être avant, quelqu'un volait, mais quand il rencontre Dieu, il ne vole plus. Et en plus, il a honte quand il se souvient qu'il n'a jamais volé, jamais dans sa vie. Ce qu'il faisait avant, maintenant, il l'a en horreur. Ça peut même se passer, cette transformation, dans un instant, avec les addictions. Je connais des hommes et des femmes avec des addictions au tabac, à l'alcool, aux drogues. Et dans un petit instant, dans une demi-seconde, Dieu les a libérés de leurs addictions, vite comme ça. Et ils ne sont jamais retournés aux chaînes qui les ont emprisonnés. Mais quelquefois, c'est dur. Il fait un effort constant. Il faut faire beaucoup pour changer. Je connais un homme, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Il était alcoolique et était fumeur. Par la puissance de Dieu, il était complètement libéré de son alcool. Il n'avait jamais plus envie. Après ce moment-là, il avait l'horreur de l'alcool. Mais le tabac, pour lui, c'était une bataille. Il savait qu'il ne pouvait pas marcher avec le Seigneur en fumant. Et il voulait arrêter. Mais c'était tellement difficile pour lui. Il a jeté toutes ses cigarettes. Mais le désir en lui était si fort qu'il lui demandait s'il pouvait seulement tirer une fois des cigarettes de quelqu'un qu'il va rencontrer sur le trottoir. Enfin, avec des luttes et des prières, il a gagné sa bataille. Mais ça prend du temps. Des années. Ce monsieur qui avait lutté autant pour être libre du tabac, après, souvent, quand il priait pour les gens qui avaient une addiction au tabac, ils étaient tout de suite libérés. Il faut que nous nous rendons compte de ce que des fois, c'est une bataille. Ce n'est pas toujours juste un instant et c'est vidé de notre vie. Il faut avoir une stratégie pour éviter les tentations qui sont pour moi un piège. Il faut réfléchir, planifier. Comment rester sur le bon chemin sans écarter quand la tentation qui nous appelle? Il faut aussi avoir prendre sa décision avant que la tentation arrive. Et savoir ce qu'on va dire quand quelqu'un t'offre quelque chose de laquelle tu t'es détourné. Et dans la bataille, quand on lutte contre le péché qu'on a dans sa vie, on découvre que la grâce de Dieu nous suffit. On voit personnellement que la promesse de Dieu est vraie, qui dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, « Les tentations qui vous assaillent sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. » Donc, les tentations, c'est comment à tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen.
Amen.
Quand on lutte contre le péché, on voit personnellement que nous ne sommes pas seuls, que les tentations sont communes à tout le monde. Quand on fait des grands efforts pour vivre une vie sainte, on apprend que Dieu est fidèle. Il nous aide à reprendre le bon chemin chaque fois que nous lui demandons. Quand on s'enfuit des tentations, on est émerveillé par la révélation de combien Dieu veille sur nous pour empêcher que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et quand on réussit, on se réjouit en considérant comment Dieu a préparé pour nous un moyen de sortir d'une situation de tentation pour pouvoir résister au péché. Vraiment, Dieu est avec nous. Dieu nous fait grâce. Et je découvre combien sa grâce est énorme quand je me tourne vers lui. Je me repentis et je lutte pour marcher comme il veut et pas comme je veux. Mais peut-être je ne vois pas le péché dans ma vie. Si je m'entoure avec des amis qui font le même péché que moi, il serait très difficile pour moi de voir mes péchés, car il va me sembler tout à fait normal. Si je joue des jeux d'argent et tous mes amis jouent des jeux d'argent, il sera difficile pour moi de voir que c'est un péché, parce que je le vois comme quelque chose tout à fait normal. Mais tout le monde fait ça. Et si le Saint-Esprit me parle, parle à mon esprit de me dire qu'il faut arrêter de jouer des jeux d'argent, j'aurais du mal à croire que ça c'est la voix de Dieu. Ces paroles me sembleront tellement bizarres. Si je mets ce qui est pornographie devant mes yeux, et au travail les autres font la même chose, il sera très facile pour moi de croire que ça fait partie de la vie, de tous les jours. Et même de croire que ça serait absurde de ne pas le faire. Et si le Saint-Esprit dit à mon esprit que cela ne te plaît pas à Dieu, je pourrais répondre automatiquement, sans la moindre réflexion, Dieu n'est pas concernant de cela. Je ne commets pas de meurtre, je ne commets pas d'adultère. C'est ça qui compte. Et plus, il y a des images pornographie partout sur les panneaux d'affichage. Dieu sait que c'est impossible d'éviter de les regarder, non? En plus, j'y vois autant d'images que cela ne me ferait rien. Mais la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 27 à verset 30, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi de perdre un de tes organes, que de voir ton corps entier précipité dans l'enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il faut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté à l'enfer. » Wow! Couper ta main si ta cause toi de péché. Enlève un œil pour éviter de regarder une femme avec un regard chargé de désir. C'est fort, non? J'ai jamais rencontré personne qui a fait ça, physiquement. Mais spirituellement, on peut faire ça. Si tu crois que Dieu ne sont pas concernés par la pornographie, tu crois à un mensonge. Ce n'est pas facile de se détourner le regard chaque fois qu'on voit ce qui est péché, ce qui est immoral. Mais Dieu t'aidera si tu lui cherches. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne regardent pas la télé. Et ce n'est pas à cause des émissions qu'on peut choisir, mais à cause des publicités. Il faut veiller, il faut faire attention. Si tu viens chez nous, tu vas regarder. Nous n'avons pas une télé. Et ça, c'est une raison pour ça. Parce qu'on a décidé que ce n'est pas la peine d'avoir quelque chose qui peut attirer, pour distraire. Merci. Mais c'est difficile de veiller. C'est difficile de faire attention si ceux qui sont autour de nous continuent dans le péché. Tes amis, tes collègues, tes copains, même tes amis de l'Église. Ils ne sont pas ton guide. Il ne faut pas les suivre. Si tu es un enfant de Dieu, tu suis Jésus. qui est-ce que tu suis? Si celui qui tu suis ne marche pas comme il faut, tu vas suivre cette personne vers le désastre. Et cette personne ne va pas pouvoir t'aider quand les désastres arrivent. Et il ne faut pas croire que puisque quelqu'un va à l'église, tu peux suivre cette personne. Quand Jésus a dit « Malheur à vous, guide aveugle » en Matthieu 23, il a prononcé ces mots contre les leaders de la synagogue, les autorités qui ont enseigné comment obéir à Dieu à ce temps-là. Il faut suivre Jésus. C'est lui notre exemple. C'est lui qui guide. Et certainement, tu peux penser des hommes de Dieu qui ont fait des bêtises, qui ont tombé dans une situation où l'on péchait là. Et les gens qui suivent cette personne, ils peuvent tomber avec lui, ou ils peuvent être blessés dans son cœur que cette personne que je suis fait ça. Mais les gens qui suivent Jésus, ils continuent de suivre Jésus. J'ai vu tellement de gens qui ont tourné vers de Dieu et retourné dans leur vie ancienne parce qu'ils suivent une personne et cette personne a tombé. On suit Jésus. Nous sommes tous les hommes. Je peux tomber. Pasteur peut tomber. Clément peut tomber. Et si on suit une personne, on peut suivre cette personne dans les désastres. On suit Jésus. Et priez pour nos frères et nos sœurs, que nous sommes ensemble et quand quelqu'un tombe, on aide de remettre debout et continuer dans cette démarche. Amen. Amen. Dans Psaume 41, verset 8, il dit, « C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, qui se tourne mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. » Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et aussi, Colossiens, chapitre 3, verset 2. De toute votre pensée, tendez vers la réalité d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. C'est trop facile de regarder les autres qui sont autour de nous pour voir ce qu'ils font. Pour vraiment suivre Jésus, il faut lire la Bible et demander au Seigneur de nous aider à entendre ce qu'il dit, de nous aider à voir ce qu'il veut nous montrer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer du temps dans l'introspection pour chercher nos fautes et nos erreurs? Pas vraiment. Mais quand l'Esprit te parle, quand il met dans ton esprit une parole, une connaissance, quand tu entends que Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, tourne-toi vers lui avec toute ta force et demande à Dieu de t'aider à te détourner de cela, de te donner la sagesse pour fuir les tentations et quelquefois aussi de te donner le désir de le suivre, le désir d'être libre, le désir d'obéir. Hébreux, chapitre 13, verset 21. Dit que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ. Ce qui lui est agréable, à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Donc, après on a changé, on a repenti, il dit, faites-vous baptiser. Il faut être baptisé dans l'eau. Au temps de la Bible, quand quelqu'un se tournait vers Dieu, il montrait sa repentance en se faisant baptiser. Au temps de Jean-Baptiste et au temps de Jésus, ce n'était pas quelque chose de nouveau, pas du tout. À ce temps-là, le peuple de Dieu se baptisait pour être purifié, pour entrer dans la présence de Dieu. Baptiser vient du mot grec qui dit immersion. Alors, se faire baptiser veut dire aller sous l'eau, immersion, comme on fait dans la Seine. Et au temps de la Bible, quand quelqu'un se tournait vers Dieu, il s'est repenti et s'est fait baptiser le même jour. Au jour de la Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui sont repenties, qui se sont converties. Ils étaient tous baptisés ce jour-là. Mais comment est-ce que les disciples de Jésus ont pu baptiser 3000 personnes dans une journée à Jérusalem où il n'y a pas de fleuve? Et il y avait des mikvot, des bains qu'on utilisait normalement pour la purification avant d'aller dans la présence de Dieu. Et ils ont utilisé ces mikvot, ces bains. Ce n'était pas compliqué à ce temps-là. Quelqu'un se repentit et se fait baptiser le même jour. Si tu as pris la décision de suivre Jésus et tu n'as pas encore été baptisé, viens me voir après le culte. Parce qu'il faut que tu te fasses baptiser aussi. Donc, changez, repentir, faites-vous baptiser. Et dernier, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Par la foi. J'ai un petit cadeau ici. Il s'allume aussi. Voilà. Joli cadeau. Ça va rester là? Non. Je vais laisser ici. Tout le monde peut voir? D'accord. Quand je donne un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour le recevoir? Il faut le prendre. Par la foi. Quand quelqu'un te donne un cadeau, tu prends par la foi. Tu as de la foi quand tu crois qu'il y a là-dedans une bonne chose. Quelque chose qui te ferait du bien. Tu as de la foi quand tu crois que la personne qui t'offre le cadeau ne va pas te demander quelque chose en retour qui sera impossible pour toi de le faire. Dans un tel cas, tu dirais non merci à ce cadeau. Et il faut avoir la foi pour demander le don du Saint-Esprit. C'est la même chose avec le don du Saint-Esprit. C'est un cadeau. Le Dieu de l'univers offre ce cadeau à chacun de ses enfants, sans exception. Mais il faut le recevoir par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a pris la décision de suivre Jésus la première fois qu'il a entendu la bonne nouvelle? Quelqu'un? La première fois que tu as entendu la bonne nouvelle, tu as dit oui, c'est pour moi. Et tu as fait la décision. J'ai vu en main. Oui, ça arrive. Mais pour la plus grande partie de nous, on entend plusieurs fois avant de prendre cette décision. Quelqu'un t'annonce la bonne nouvelle, que Jésus a payé le prix pour tes péchés et que tout ce que tu as besoin de faire, c'est te repentir de tes péchés et demander à Jésus de te pardonner et demander à Jésus d'être ton sauveur et ton Seigneur et tu seras sauvé. Quelqu'un te dit que Dieu t'offre le don gratuit de salut et tout ce qu'il faut faire, c'est de l'accepter et tu dis, Tu entends une autre fois, et une autre fois. Et chaque fois, tu dis, Mais un jour, tu entends, et tout d'un coup, tu te rends compte que tu es un pécheur, et que tu ne mérites le mort. Et tu te rends compte qu'il n'y a personne qui puisse te sauver de la mort, sauf Jésus. Et tu ne dis plus, tu dis, oui. La parole qu'on a semée en toi a produit une récolte. Et la récolte, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche et dit oui à Dieu. Probablement, tu l'as entendu plusieurs fois, comme moi. Mais cette fois, tu as de la foi. Et tu crois. et tu reçois. Tu es sauvé. Tu es une nouvelle créature. Tu es changé. Tu es transformé. Pourquoi? Parce que tu avais de la foi. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. La première chose, il faut avoir de la foi que ce cadeau du Saint-Esprit est une bonne chose. Et c'est là que beaucoup perdent leur foi. Ils ont peur. Si tu penses que le Saint-Esprit va te contrôler et te faire dire les mots quand tu ne veux pas, sois rassuré. Quelqu'un qui parle pour Dieu est un prophète. Et la Bible dit que c'est le prophète qui contrôle ce qu'il dit, pas l'Esprit. En 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32, il dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Et en Actes, chapitre 2, verset 4, « Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. » Donc notez bien, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Il ne dit pas le Saint-Esprit s'exprimant. Non, c'est chacun s'exprimant. Ça veut dire qu'il parlait les mots du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit leur donnait des mots à dire. Est-ce qu'il était des marionnettes du Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il avait perdu leur volonté? Non. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut bien m'aider? Une personne. Jacques? D'accord? Viens. Je veux que tu me débrouilles juste ici. Donc, je vais te donner une feuille de papier. Sur le papier, il y a des mots. Est-ce que tu sais quels sont les mots sur le papier? Non, sans regarder. Non, tu ne sais pas. D'accord. D'accord. Alors, je te donnerai le papier. Et si tu veux, tu peux lire le papier dans le micro.
Isten maga asretet.
D'accord. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit Isten maga asretet. Ça veut dire Dieu est amour. Dans la langue hongrie. Mais c'était moi qui a parlé ou c'était lui? C'était lui, exactement. C'était mes lèvres qui ont bougé ou c'était les siennes? C'était ma langue qui a prononcé les sons ou c'est la sienne? Est-ce que lui a forcé de dire ces mots? Ou est-ce qu'il a fait? Il a fait parce qu'il a choisi de le faire. Voilà. C'est qui avait contrôlé le choix et le choix? C'est lui ou c'est moi? C'est lui. Il a décidé de le dire. Il a décidé de le dire. Voilà. Tu peux t'asseoir. Donc c'est une bonne chose de dire oui, je volontaire. Alors, n'ayez pas de soucis. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il te donne les mots, mais pas sur une feuille de papier. Il met les mots en toi, dans ton esprit. Il te donne la capacité de parler en autre langue. Et ça, avec une prononciation parfaite. Et ça, sans étudier, comme moi avec le français. Il te donne la capacité. Mais c'est toi qui décides si tu vas parler. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Il est là pour te faire du bien, pas pour te faire du mal. Pour dire les mots, il faut avoir de la foi. Que ce que le Saint-Esprit te donne à faire, c'est pour te faire du bien, pour te bénir. Et même si tu ne comprends pas les mots qui sortent de ta bouche, tu le dis par la foi que ces mots seront pour toi une bénédiction. Est-ce que tu vas comprendre ce que tu dis? La plus grande partie, non. Tu ne vas pas comprendre. Si je demande à mon Papa Céleste ce que j'ai dit, il me donnera une interprétation. Mais la plus grande partie du temps, je ne demande même pas. J'ai confiance en mon Papa Céleste et son amour et sa fidélité de veiller sur moi. Mais il y en a qui disent, mais je n'ai pas cette confiance. Peut-être si je dis des mots sans savoir ce qu'ils signifient, je vais dire quelque chose de mauvais, ou peut-être même du diable. Il faut que je sache ce que ça veut dire avant que je ne le dise. Et là aussi, c'est par la foi qu'on parle. Il faut faire confiance en ce que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que nous disions quelque chose contre lui. Il ne permettrait pas que nous disions quelque chose qui vient du diable. Vous qui êtes des parents, et si ton enfant te demande quelque chose à manger, est-ce que tu vas lui donner quelque chose qui leur ferait du mal ou du bien? Du bien, bien sûr. Dans Luc 11, chapitre verset 11 à 13. Luc 11, 11 à 13. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnerait-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Nous avons une promesse. Si nous demandons le Père de nous donner le Saint-Esprit, il va nous donner le Saint-Esprit. Et il ne va pas nous donner quelque chose de mauvais. Dieu est fidèle. Dieu garde ses promesses. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui demander l'Esprit Saint et il nous donnera l'Esprit Saint. Mais pour demander, il faut avoir de la foi. Changer de micro. Voilà. Peut-être que je ne sais pas, c'est moi. Mais pour demander, il faut avoir de la foi. La foi qui croit ce qui est dans le cadeau est quelque chose de bon. Et la foi qui croit que je peux faire confiance à mon Dieu. Il faut aussi avoir la foi que Dieu ne me donnerait pas quelque chose en retour qui serait impossible pour moi de faire. Mais là, Dieu nous donne l'Esprit Saint, sans condition. En tout cas, tu lui as déjà donné ta vie, ton éternité, et tout ce que tu as appartient de lui. Alors tu n'as rien à craindre. Mais en fait, si tu crains que Dieu te demande quelque chose en retour qui serait impossible pour toi de faire, en échange pour ce cadeau du Saint-Esprit, je peux t'assurer que c'est tout à fait le contraire. Dieu te donne le Saint-Esprit pour que tu puisses faire ce qui serait impossible pour toi de faire. Car avec le Saint-Esprit, il y a aussi des dons du Saint-Esprit qui te donnent la capacité de faire ce qui serait impossible autrement. Les dons du Saint-Esprit sont les dons de miracles, guérison, parole de connaissance et sagesse, prophétie, interprétation, discernement et d'autres. Quand le Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est un cadeau merveilleux. Le Saint-Esprit en toi peut te guider, peut t'éloigner du danger, te donner des conseils, te montrer le chemin qui serait le mieux pour toi. Le Saint-Esprit en toi peut te rappeler l'amour de Dieu quand tu es découragé, te rappeler les vérités de Dieu quand tu commences à croire ce qui est faux. Le Saint-Esprit est toujours avec moi, jour et nuit. Je ne suis jamais seul. Et il est en moi et il est mon meilleur ami. Alors, prenez votre foi comme un grain et demande à ton Dieu de te donner le Saint-Esprit. Il a envie de te donner le Saint-Esprit. Il a promis de te donner le Saint-Esprit. Mais il attend que tu demandes par la foi. Après ça, on commence à grandir. On passe du temps dans la présence. On apprend à utiliser le don qu'il t'a donné. Chez quelqu'un, quand ils commencent à parler une langue, au début, ils ne peuvent dire qu'une petite phrase, peut-être un seul mot. Mais ils continuent à dire le mot ou la petite phrase. Et avec du temps, ils peuvent dire plus. Donc, ceci n'est que le début. Mais il faut commencer au début. Après ça, on commence à grandir. On passe du temps dans la présence de Dieu. Et on le connaît mieux. On passe du temps dans la parole pour apprendre qui est de Dieu, qui nous aime plus que la vie. Qu'est-ce qu'il aime, ce Dieu d'amour? Et qu'est-ce qu'il n'aime pas pour être plus comme lui? Pour continuer à changer. Et changer, on fait ça toute sa vie. Quand on finit de changer, c'est parce qu'on est arrivé chez lui en haut. On passe du temps avec lui, on commence à changer, on ne devient plus comme lui. Et maintenant, nous allons passer du temps avec lui. Si tu veux le don du Saint-Esprit, je vous demande de venir devant, maintenant. N'hésite pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu veux ce don, ce cadeau du Saint-Esprit, viens maintenant devant. On va prier avec toi.